Il y a diverses façons d'apprécier l'unité d'une œuvre, c'est-à-dire de montrer comment les divers travaux qui la constituent se rejoignent, plus encore font sens en se liant les uns aux autres. On peut par exemple adopter une démarche génétique et tenter donc de suivre l'engendrement de l'œuvre à partir, pourrions-nous dire, des premières intuitions de son auteur. Une telle démarche permet de comprendre comment les questionnements naissent, et de montrer aussi la continuité entre les différents travaux. Alors, elle permettrait, si on l'adoptait, de montrer par exemple les liens qui peuvent exister entre les premières réflexions de Pierre Rosanvallon sur l'autogestion et les dernières sur l'égalité. Ou elle permettrait de montrer comment les essais de théorie politique dans la deuxième trilogie, hein, la contre-démocratie, la légitimité démocratique, la société des égaux, eh bien, peuvent être considérés comme une conséquence des réflexions développées dans la première trilogie consacrée à l'histoire de la démocratie française. Sac du citoyen, le peuple introuvable, la démocratie inachevée. On pourrait adopter une autre démarche encore, qui serait plus synchronique que diachronique, et qui consiste à comprendre l'œuvre à travers les différentes thématiques qui la structurent, et qui constituent autant de passerelles entre les différents ouvrages d'histoire, de théorie politique, de sciences sociales. Une telle perspective pourrait ainsi montrer comment sont déclinées les différentes questions que pose la compréhension des démocraties contemporaines. On pourrait ainsi, et ce serait sans doute une voie très fructueuse, montrer comment l'œuvre de Pierre Rosanvallon s'est structurée autour d'une réflexion sur la nature du peuple, ou sur celle de la représentation, ou sur celle de la légitimité. Alors, ces deux démarches, génétiques ou thématiques, ont leurs avantages, mais je voudrais en développer en fait une troisième, que je crois plus systémique. Je voudrais en effet m'arrêter sur la conceptualité qui structure l'œuvre de Pierre Rosanvallon. Alors, que faut-il entendre par là ? Il me semble qu'on trouve dans l'œuvre de Pierre Rosanvallon, alors sans doute d'ailleurs comme dans tout système de pensée, deux types de concepts. Les premiers sont éthiques et les seconds sont instrumentaux. Alors j'appelle éthiques les concepts qui sont en eux-mêmes des propositions théoriques majeures dans un système de pensée. C'est-à-dire ces concepts sont explicitement posés comme tels, ils font l'objet dans l'œuvre d'un travail précis d'élaboration, dont on peut suivre d'ailleurs la genèse. Alors, dans l'œuvre de Pierre Rosanvallon, les concepts éthiques sont d'importance, ils sont connus. J'en cite quelques-uns parmi les plus significatifs. La politique, hein, par exemple, dont on trouve une élaboration dans Pour une histoire conceptuelle du politique. Le libéralisme, qui est redéfini dans Le capitalisme utopique. L'égalité, bien sûr, déclinée dans La société des égaux. Ou, bien sûr, la contre-démocratie, un concept forgé pour désigner l'émergence dans le monde contemporain d'une nouvelle forme de démocratie. Chacun de ces concepts fournit, pour une analyse thématique de l'œuvre, de précieux fils conducteurs. Mais ce n'est pas sur ces concepts-là que je voudrais m'arrêter. Je voudrais m'arrêter sur la conceptualité instrumentale qui organise le système de pensée de Pierre Rosanvallon. Les concepts instrumentaux sont les outils qui permettent à l'œuvre de se construire, donc au concept éthique de se forger. Leur prêter attention me paraît avoir en effet deux avantages. Premier avantage, puisque ce sont eux qui permettent à la démonstration de se déployer, les identifier permet de mesurer la singularité de l'œuvre de Pierre Rosanvallon, qui ne peut se résumer simplement à l'élaboration d'un certain nombre de propositions théoriques sur différents thèmes, mais qui met en œuvre une rationalité spécifique. Deuxième avantage, l'œuvre de Pierre Rosanvallon est rarement, voire jamais, polémique. Elle ne se constitue pas dans le rejet de travaux antérieurs sur les mêmes questions. Elle ne critique pas explicitement les interprétations des textes ou des séquences historiques sur lesquelles elle se construit. Elle dialogue pourtant, me semble-t-il, implicitement avec la pensée politique moderne et contemporaine, ce que, je crois, l'étude des concepts instrumentaux permet de saisir. Alors, ces concepts instrumentaux sont de deux sortes, et je ne prétends pas être exhaustif. Il y a des concepts que j'appelle épistémologiques, c'est-à-dire qui établissent le cadre général de l'épistémé, du savoir qui se construit ouvrage après ouvrage. Et il y a des concepts instrumentaux, que j'appellerais plus proprement théoriques, qui structurent cette épistémé. Et mon exposé va suivre cette distinction entre donc des concepts instrumentaux épistémologiques et des concepts instrumentaux théoriques. Alors, dans la contre-démocratie, Pierre Rosanvallon emprunte à Fichte, ou on pourrait dire théorise à partir de Fichte, l'idée que la démocratie, pour être pleinement elle-même, doit être réflexive, c'est-à-dire ne doit pas cesser de s'interroger sur elle-même. En effet, dans les fondements du droit naturel, Fichte réfléchit, souligne Pierre Rosanvallon, à la mise en place d'un éphora, c'est-à-dire un tribunat, qui puisse contrôler la puissance publique, institutionnalisant par là l'idée que la démocratie doit toujours avoir un regard sur ses pratiques. Mais si la démocratie doit réfléchir sur ses pratiques, il importe aussi, selon Pierre Rosanvallon, que la connaissance de la démocratie réfléchisse sur ses propres modalités. Pierre Rosanvallon ne sépare pas ces deux dimensions. On ne peut comprendre la démocratie et les questions qu'elle pose sans s'interroger en même temps sur la manière dont ce savoir peut se constituer. Et c'est, me semble-t-il, ce qu'attestent les trois couples conceptuels épistémologiques que je vais présenter maintenant. Alors, le premier des concepts sur lequel je voudrais réfléchir, c'est bien sûr le concept de concept. Et plus précisément, le couple conceptuel concept-histoire, qui définit très largement la démarche de Pierre Rosanvallon. Pierre Rosanvallon pose implicitement dans ses travaux, et explicitement dans le texte de sa leçon inaugurale, une question à mes yeux majeure: comment l'histoire peut-elle faire sens pour nous? Elle ne peut l'être, répond-il, qu'en étant une histoire conceptuelle du politique. Ce qui signifie qu'elle ne peut pas être strictement une histoire sociale, dit Pierre Rosanvallon, car celle-ci ne fait pas assez de place aux tensions qui traversent les dispositifs institutionnels, ni surtout seulement une histoire des idées. Car l'histoire des idées, explique Pierre Rosanvallon, a tendance à considérer les théories comme autonomes, alors qu'il faut les replacer pour les comprendre dans l'imaginaire social qui préside à leur naissance. Alors, on peut objecter à cet argument que l'histoire des idées, qui a été théorisée par Skinner dès la fin des années 60, entend précisément ne pas considérer les œuvres comme autonomes, et elle entend justement se séparer par là d'une histoire traditionnelle de la philosophie. Replacer les œuvres dans leur contexte social et politique, souligne Skinner, dissipe les illusions qui peuvent naître d'une lecture purement interne et qui peut, par exemple, hypertrophier un aspect contingent d'une théorie pour en faire un élément essentiel. Or, écrit Skinner, un tel défaut conduit bien souvent à l'anachronisme. Car ce qui est alors mis en avant, c'est ce qui nous semble à nous, lecteurs, faire sens, alors que l'histoire des idées, dit Skinner, doit s'efforcer de ressaisir l'intention des auteurs au moment où ils écrivent. C'est ainsi, je donne un exemple, souligne Skinner, qu'on se met à voir dans l'œuvre de Marcille de Padoue une théorisation de la séparation des pouvoirs dont le concept, dit Skinner, au XIVe siècle n'existe pas. Je voudrais simplement insister sur une différence majeure qui écarte ces deux manières de faire l'histoire des théories. Sachant donc que l'histoire conceptuelle du politique ne veut pas être simplement, je l'ai dit, donc une histoire des idées, puisqu'elle est une histoire du politique en général. La différence majeure me semble être la suivante. L'histoire conceptuelle du politique n'est pas l'histoire politique des concepts. L'histoire politique des concepts, je l'ai dit, veut éviter l'anachronisme en essayant donc, comme le prône Skinner, de comprendre l'émergence des concepts au sein de leur contexte historique et politique. L'histoire conceptuelle du politique, elle, telle que dont Pierre Rosanvallon la défend, cette histoire conceptuelle du politique a une autre ambition. Elle veut faire une histoire de la démocratie qui puisse rendre intelligibles les problèmes qu'elle doit affronter dans le monde contemporain. Il faut donc, pour cela, faire appel à ce que Nicole Laureau nomme une pratique contrôlée de l'anachronisme. Il faut aller vers le passé avec nos questions, si l'on veut, comme l'écrit Pierre Rosanvallon, que l'histoire soit le laboratoire en activité de notre présent. L'histoire des idées montre comment celles-ci émergent et comment elles sont reprises, formant ainsi des traditions argumentatives continues. Mais l'histoire conceptuelle du politique, elle, insiste moins sur les continuités que sur les ruptures. Ce qu'il faut percevoir, c'est ce qui se modifie, ce qui permet de dire que l'âge contemporain n'est plus l'âge moderne, bref, ce qui permet d'établir un diagnostic. L'histoire, selon Pierre Rosanvallon, est donc en quelque sorte anachronique. Elle interroge le passé à partir des catégories que ses acteurs n'auraient pas compris telles quelles. La première d'entre elles, c'est la notion de démocratie. Ou peut-être même pas compris du tout. Et c'est le cas du concept qui est majeur à mes yeux de contre-démocratie. L'histoire conceptuelle du politique est donc raisonnablement anachronique. Ce n'est pas un paradoxe. Sa visée n'est pas seulement historique, elle est politique, puisqu'elle veut essayer de comprendre l'articulation entre la modernité et l'âge contemporain. Eh bien, nous voilà conduits au deuxième couple conceptuel épistémologique que je voudrais brièvement analyser, la modernité et le contemporain. Pierre Rosanvallon adopte une définition weberienne de la modernité. Je le cite, « La grande question de la modernité, c'est de penser une société laïque. » Fin de citation, c'est dans le capitalisme utopique. C'est-à-dire une société qui ne repose que sur elle-même et non sur un ordre traditionnel ou un établissement divin. La composante essentielle de l'âge moderne, c'est donc l'individualisme. L'individu s'affirme comme ayant une existence séparée du corps social, et la démocratie, souligne Pierre Rosanvallon, n'est pas simplement le nom que l'on donne à des institutions spécifiques, le terme désigne plus largement le problème que la modernité doit affronter, puisque la société doit désormais être pensée comme une composition d'individus. De la modernité, on peut donc dire avec Habermas qu'elle a conscience d'elle-même. Les modernes se définissent comme modernes, ils savent qu'ils appartiennent à un temps nouveau. Autrement dit, la modernité n'entend puiser sa normativité qu'en elle-même et non la recevoir du passé ou des traditions. Faire l'histoire moderne du politique, c'est donc montrer les différentes voies suivies par la modernité pour comprendre le lien social à partir des individus. Pierre Rosanvallon étudie trois de ces voies. Première voie, le libéralisme écossais porté par Smith, principalement, fait du marché le principe d'organisation des rapports sociaux. Deuxième voie, le contractualisme de Hobbes à Rousseau considère la politique comme une institution du social par le biais de conventions entre les individus. Troisième voie, le conservatisme français du XIXe siècle, dont Guizot est la figure centrale, refuse à la fois le marché du capitalisme utopique et le contrat du droit naturel, le lien social étant pour les doctrinaires produit par le gouvernement. Or, l'âge contemporain n'est pas la continuation du projet moderne ainsi défini, mais sa mise en défaut. Le contemporain révèle les impasses de cette modernité qui n'entend se fonder que sur elle-même. L'œuvre de Pierre Rosanvallon nous permet de mesurer les deux dimensions de cet échec. Cet échec, il est d'abord doctrinal. Le contractualisme est hypothétique. Le libéralisme du marché reste utopique. Le conservatisme devient vite réactionnaire et antidémocratique. Les trois tendances théoriques de la modernité échouent à penser une société autofondée. Mais l'échec du projet moderne est également un échec institutionnel. Il est doctrinal, mais il est aussi institutionnel. L'État-providence, forme moderne de l'État protecteur qui se développe à partir du XIVe siècle, est en crise. Les institutions démocratiques ont perdu leur légitimité. Légitimité procédurale, l'élection a été désacralisée, et légitimité substantielle, l'action publique a été dévalorisée. La modernité peine, selon Pierre Rosanvallon, à fonder le discours par lequel elle se dit. Les catégories qu'elle invoque pour penser le politique sont bien incertaines. Le peuple, principe politique et réalité sociologique, est introuvable. la souveraineté censée fonder le pouvoir politique est équivoque, puisqu'elle est à la fois un principe politique abstrait et un mode de gouvernement. Or, les incertitudes de notre temps sont le résultat, hein, je cite Pierre-Rosan Vallon, des apories de la modernité politique. Le contemporain, dit Pierre-Rosan Vallon, c'est l'impolitique. Alors comment comprendre cette expression ? Pierre-Rosan Vallon définit l'impolitique comme, je le cite, défaut d'appréhension globale des problèmes liés à l'organisation d'un monde commun. Défaut d'appréhension globale des problèmes liés à l'organisation d'un monde commun. Fin de citation. Le contemporain se définit comme un défaut de langage politique. Habermas a défini le discours philosophique de la modernité, mais le discours philosophique du contemporain, hein, pourrions-nous dire, selon Pierre-Rosan Vallon, n'existe pas. L'impolitique, c'est à la fois la crise des institutions de la modernité et l'épuisement de ses catégories. Les travaux de Pierre-Rosan Vallon veulent donner au contemporain son langage. Les concepts par lesquels il pourra réinventer sa société démocratique, et ce sont les concepts éthiques que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agit bien d'amener le contemporain à la réflexivité à laquelle la modernité a accédé. Le contemporain doit rompre avec la modernité, comme celle-ci a rompu avec l'ancien, et revendiquer pour lui-même l'invention de sa propre normativité. L'histoire conceptuelle du politique veut donc faire accéder le contemporain à la conscience de soi, stade auquel il n'a pas encore accédé. Voilà pourquoi il faut sans doute bien opposer la modernité, le nom, au contemporain comme substantif, hein, la différence entre nom et substantif marquant justement la différence de réflexivité. Alors donner au contemporain son langage suppose d'historiciser nos catégories politiques. Ce qui peut se dire d'ailleurs encore autrement, Pierre-Rosan Vallon citant Rousseau, qui souhaite compliquer notre définition de la citoyenneté, avance qu'il faut compliquer notre conception de la démocratie. Le simple et le complexe forment, me semble-t-il, la troisième opposition conceptuelle épistémologique fondamentale dans le système de pensée de Pierre-Rosan Vallon. Je voudrais m'arrêter sur cette distinction entre le simple et le complexe, car elle est elle-même plus complexe qu'il n'y paraît. Elle joue en effet, selon moi, sur deux registres. Le premier est théorique, le deuxième est politique. Car le simple et le complexe, ou la complication, hein, ça suppose plus précisément une complexification de notre savoir, hein, d'un point de vue théorique, et une complication de notre démocratie, d'un point de vue politique. Alors, je vais développer ces deux points. L'opposition incite donc, entre le simple et le complexe, incite d'abord à complexifier notre savoir. C'est un impératif épistémologique sans lequel nous peinons à comprendre les tensions de notre monde contemporain. Pierre-Rosan Vallon refuse les théories simples qui font l'analyse d'un objet sans tenir compte de ses modifications historiques ou des changements survenus au cours des temps dans la représentation qu'on s'en fait. C'est une telle complexification qui exige, par exemple, l'histoire de l'État moderne. Il est possible, en suivant ce que Tocqueville écrit dans l'Ancien Régime et la Révolution, de faire de l'État une histoire simple, c'est-à-dire continuiste. L'État français n'aurait pas connu avec la Révolution un changement de nature, mais aurait poursuivi au XIXe siècle une croissance linéaire et progressive. Mais, écrit Pierre-Rosan Vallon, je le cite, « cette analyse a pour inconvénient majeur de réduire l'État au système administratif et de négliger l'État en tant que forme politique. » Fin de citation. L'État ainsi simplifié n'est qu'un nom. La complexification de nos catégories est une condition nécessaire pour nous débarrasser des faux savoirs. Et le comparatisme est pour cela essentiel. La désoccidentalisation du regard est nécessaire, mais à condition d'en poser les fondements, c'est-à-dire les concepts qui peuvent rendre possible une comparaison de réalité historique singulière. Mais l'opposition entre le simple et le complexe est aussi plus directement politique. C'est ainsi notre démocratie que Pierre-Rosan Vallon nous invite à recomposer en la compliquant. Alors comment comprendre cette exigence ? Que signifie-t-elle ? Notre modernité politique, s'est construite sur cette opposition entre le simple et le complexe. Paine, rappelle Pierre Rosanvallon dans Le capitalisme utopique, défend la simplicité politique, c'est-à-dire la simplicité de la politique dans un monde nouveau, enfin affranchi de ses anciennes servitudes, enfin libéré par les droits de l'homme. La révolution, dit Paine, a simplifié le monde. Elle l'ordonne désormais autour d'une normativité universelle. Elle distingue, et j'y reviendrai, la société qu'il faut laisser à sa complexité et le gouvernement dont la forme est simplifiée. Burke, on le sait, défend au contraire la complexité. Car la politique est un art difficile qui doit composer avec une réalité sociale et historique profonde. Pierre Rosanvallon suit en quelque sorte cette ligne-là. La modernité se construit dans un désir de simplification qui l'amène aux apories par laquelle elle va se conclure et dont l'âge contemporain, qui ne s'est pas inventé son langage, souffre désormais. La réduction de la politique au simple a reçu dans le discours philosophique de la modernité deux expressions, selon Pierre Rosanvallon. Première expression, le contractualisme d'inspiration juste naturaliste, qui pense que le politique prescrit le social. Deuxième expression, le libéralisme issu des Lumières écossaises, qui pense que l'économique englobe le social. La complication de notre démocratie, à laquelle Pierre Rosanvallon nous invite, consiste à reprendre le politique à partir de la complexité sociale, comme Burke, il faut le noter, y a cité. La réappropriation sociale du pouvoir est une exigence de notre temps. La démocratie complexe doit être, je cite Pierre Rosanvallon, une forme politique plurielle dans laquelle la société peut faire entendre sa voix et participer aux décisions dans une succession d'instances allant du plus proche au plus lointain, du plus informel au plus institutionnalisé. Fin de citation. C'est dans le modèle social français. Les voies de la complication, Pierre Rosanvallon les identifie. La complication de nos démocraties. 1. Premièrement, la pluralisation des formes de démocratie ou contre-démocratie. Deuxièmement, la reprise de ses fondements, les nouvelles légitimités. Troisièmement, la recomposition des rapports sociaux, les égalités contemporaines. Concept et histoire. Modernité et contemporain. Simple et complexe. Les concepts instrumentaux épistémologiques dessinent ainsi le cadre d'ensemble de la connaissance du politique. C'est à partir d'eux qu'il faut comprendre les concepts de théorie politique qui structurent le système de pensée de Pierre Rosanvallon, et j'en viens donc à ces concepts instrumentaux théoriques. 5 couples de notions, organisés autour des notions fondamentales d'individu et de société, me paraissent mériter notre attention. L'individualisme contemporain serait responsable de la dissolution de la politique, désormais réduite à la seule revendication des droits subjectifs. On connaît cette proposition, sur laquelle se sont accordés des penseurs comme Pierre Manant, Marcel Gauchet, Gilles Lipovetsky, pour une grande partie d'entre eux, néo-tocquevilliens, je mets ça entre guillemets, puisque leur lecture de Tocqueville me paraît accorder une importance démesurée à l'individualisme, ou des penseurs comme Alain Renaud, inspiré par le kantisme politique. Cette proposition, cependant, me semble envelopper deux aspects qu'il faut bien distinguer sous peine de ne pas bien comprendre ce qui est reproché à l'individualisme. Car cette critique, elle est double, elle est à la fois sociale et politique. Social. L'individualisme à l'âge contemporain serait devenu un narcissisme hédoniste. Le repli sur soi dans la société de consommation aurait perverti l'être ensemble. Premier aspect social. Deuxième aspect qui est politique. Les rapports de l'individu à la puissance publique seraient affectés par les revendications individualistes. Cette dimension-là, d'ailleurs, peut prendre elle-même deux aspects. Il y a d'abord une désaffection générale pour l'implication politique, dont l'abstention, par exemple, dans notre gouvernement représentatif est souvent considérée comme le signe le plus manifeste. Et puis, il y a aussi une politique de l'individu, puisque la démocratie est désormais considérée comme celle des droits, hein, ce que Gauchet, Marcel Gauchet appelle une politique des droits de l'homme, au détriment du bien commun. Eh bien, la réponse de Pierre-Rosan Vallon à ces arguments me paraît très élaborée. Mais cette réponse, on ne peut la comprendre que si on prête attention à la manière dont il conçoit l'individu, hein, l'individu, la société et la sphère publique. Pierre-Rosan Vallon le souligne explicitement. Je le cite, « L'invocation de l'individualisme est devenue depuis plusieurs années une sorte de passe-partout intellectuel. » Fin de citation. Qui expliquerait, par exemple, le déclin du syndicalisme. L'individualisme, pour le dire autrement, est devenu une catégorie morale sur laquelle repose une axiologie implicite. Alors qu'il faut le considérer comme un phénomène dont il faut comprendre les raisons historiques, suivant là, hein, à la fois Tocqueville, donc peut-être donc du coup trop vite interprété par les néo-tocqueviliens, et évidemment Louis Dumont. D'une part, en effet, l'individualisme est constitutif de notre modernité, dit Pierre-Rosan Vallon. D'autre part, il a lui-même une histoire. Ses formes sont variables. On doit à Guizot une analyse très fine de la nature de l'individu moderne. Guizot dit « L'individu n'est pas un atome isolé. Il n'est pas une composante d'un petit corps simple. Il est, et je cite Pierre-Rosan Vallon, un moment et un sujet de l'interaction sociale. Un moment et un sujet de l'interaction sociale. Autrement dit, l'individu moderne est disposé à la relation, ce que d'ailleurs Tocqueville ne cesse d'affirmer quand on le lit bien, et ouvert à la politique, souligne Pierre-Rosan Vallon. C'est à partir de cette double ouverture à la société et à la cité, qu'il faut comprendre l'évolution de l'individualisme contemporain. D'abord, rien ne dit que cet individualisme se traduise par une fermeture à l'inclusion sociale, hein, dont en fait il ne fait que modifier les modalités. La société des individus se donne comme le champ des appartenances plurielles, et non comme la désaffiliation généralisée. Pierre-Rosan Vallon le montre à partir de la question syndicale. Les vieilles catégories que sont l'indifférence ou la mobilisation avec lesquelles on traitait de l'engagement syndical n'ont plus cours désormais, car cet engagement syndical a radicalement changé de sens. Désormais, les militants aspirent à un rapport contrôlé au collectif qui ne peut plus avoir la même prétention totalisante. Le collectif, dit autrement, n'est plus considéré comme ayant sur l'individu un pouvoir de décision. Penser que l'individualisme est synonyme de désimplication et de repli sur soi, c'est se refuser de voir les mutations contemporaines de la sociabilité. Ensuite, il faut considérer autrement le rapport de l'individu à la cité. Après l'avoir considéré autrement le rapport à la société, il faut aussi considérer autrement le rapport de l'individu à la cité. Sans se méprendre encore une fois sur ce qu'engage l'individualisme contemporain. Car cet individualisme contemporain n'est pas, comme l'explique la société des égaux, n'est pas l'avènement de la particularité, mais la promotion de la singularité. Et la différence est fondamentale. La particularité écarte naturellement de l'intérêt général et de la sphère publique. Quand la singularité, au contraire, l'appelle en quelque sorte. Car la singularité dépend, pour exister, d'une reconnaissance politique. Et je reviendrai, je le dis tout de suite, je reviendrai plus loin sur les problèmes que cette reconnaissance pose, hein, sur les problèmes posés par cette reconnaissance. La singularité n'est pas un état, c'est un mode de relation. Je cite Pierre-Rosan Vallon. L'aspiration à la singularité ne peut prendre forme que dans la relation à autrui, écrit-il. Dans la société des égaux. L'attention théorique prêtée à la reconnaissance, notamment sous l'influence de Charles Taylor. Cette attention théorique prêtée à la reconnaissance est l'indice d'une préoccupation sociale grandissante. Mais cette préoccupation forme aussi une disposition nouvelle à la politique. L'argument a été brillamment énoncé par Claude Lefort, et il me semble qu'il structure très largement les réflexions de Pierre-Rosan Vallon sur l'individualisme. dans l'invention démocratique, hein, ce texte est connu, Claude Lefort, commentant la question juive de Marx, souligne, contre la critique marxiste des droits de l'homme, mais aussi contre les arguments de Marcel Gauchet, que, je cite Claude Lefort, « les droits ne se dissocient pas de la conscience des droits ». Fin de citation. Et que cette conscience des droits appelle une déclaration de ces droits par la puissance publique. Les droits, autrement dit, sont revendiqués, ils nourrissent l'action collective, ils disposent à la politique. Les droits sont constitutifs de la démocratie, qui n'est pas autre chose, selon Lefort, que le nom que l'on doit donner à la division en politique. Bref, nous pouvons considérer que la conscience de sa singularité et la demande d'une reconnaissance publique de cette singularité implique dans la cité plutôt que n'en éloigne. L'idée que l'individualisme détache de la politique est une proposition trop confuse pour être pleinement pertinente. L'histoire moderne et contemporaine, telle que Pierre-Rosan Vallon la pratique, redonne à cette question toute sa profondeur. Et c'est en fonction de cette demande de reconnaissance qu'il faut ainsi désormais comprendre le rapport de l'individu à l'État protecteur, devenu État-providence. À qui il est demandé de prêter attention aux trajectoires individuelles. C'est aussi en fonction de cette politique nouvelle de la singularité qu'il faut entendre le rapport complexe des individus au pouvoir. La demande de proximité résulte de ce besoin de reconnaissance, qui ne peut satisfaire d'un état trop loin. Les services, souligne Pierre-Rosan Vallon, sont de proximité, tout comme l'attention du gouvernement, à qui il est désormais demandé d'incarner cette attention à la singularité. Rethéoriser la démocratie implique, on le voit, une approche renouvelée de ce que désigne la notion d'individu. Et de la même manière, c'est le concept de société qu'il faut redéfinir, ce à quoi les ouvrages de Pierre-Rosan Vallon travaillent, me semble-t-il, de manière systématique. Et pour le comprendre, il faut saisir ce qui oppose, hein, il faut saisir trois oppositions. Il faut saisir ce qui oppose la société à l'État, premièrement, au gouvernement, deuxièmement, et à la communauté, troisièmement. Je vais prendre ces distinctions dans l'ordre. Alors, je n'apprendrai rien à personne en disant que l'opposition entre société et État est constitutive dans le système de pensée de Pierre-Rosan Vallon. C'est pour cette attention prêtée aux ressources politiques de la société civile que Pierre-Rosan Vallon est traditionnellement considéré comme le penseur phare de ce qu'il est convenu d'appeler la deuxième gauche. Ce qui m'a toujours paru à la fois historiquement juste et théoriquement un peu trompeur. Pourquoi ? Parce qu'à trop insister sur cet héritage, on finit par exagérer dans le système conceptuel de Pierre-Rosan Vallon l'influence de la pensée antitotalitaire qui a construit la deuxième gauche. On sait que c'est en réaction à ce que Lefort appelle la fascination pour l'un, c'est-à-dire une société sans conflit, lissée en quelque sorte par l'État, que cet anti-marxisme s'est en effet prononcé pour une conception de la démocratie, fondée donc sur une société civile qui serait plurielle, hétérogène, conflictuelle. Mais l'œuvre de Pierre-Rosan Vallon ne peut pas se réduire à l'application de ce programme théorique. Elle est bien une réflexion sur l'écart entre État et société civile. Réflexion que le contemporain impose. Mais cet écart doit être précisément mesuré en fonction des ressources de la société civile elle-même. Et ça me paraît décisif. Pour le dire autrement, société et État sont des variables et non des réalités déterminées et figées dans leur opposition. La notion de société civile, rappelle Pierre-Rosan Vallon, s'est construite sur fond d'utopie. C'est Smith qui lui donne naissance, en la détachant de l'idée de société politique, on sait que les deux sont confondus chez Locke. Smith en donne une définition économique. La société civile, pour le dire vite, c'est le marché. Or, cette société civile, moderne, autorégulée, ferait, et c'est là qu'est l'utopie, disparaître le politique. Or, vous le savez, cette utopie libérale, eh bien, pour Pierre-Rosan Vallon, elle est, d'une certaine manière, l'utopie marxiste la rejoint. Car ce que Marx reproche précisément à Hegel, c'est d'avoir théorisé une séparation entre société civile et État, et du coup de n'avoir pas su dépasser leur opposition. que Marx justement refuse. Pour faire disparaître cette opposition, il n'est pas d'autre voie que de revenir à la proposition libérale énoncée par Smith. La société civile est autosuffisante, elle peut donc absorber le politique. La thèse qui est énoncée dans le capitalisme utopique est très forte. Pierre Rosanvallon considère bien qu'il n'est pas d'autre manière pour dépasser cette opposition. Mais pourtant, si l'on y réfléchit bien, la démocratie n'impose pas qu'on la dépasse. Précisément parce que société civile et État ne sont pas dans un face-à-face figé, mais dans une relation variable, qui définit le politique. Pierre Rosanvallon l'explique très bien dans La crise de l'État-providence. La réduction de la demande d'État ne signifie rien si elle ne s'accompagne pas d'un développement de la socialité, donc d'un développement des ressources de la société civile. Il me semble ici que le changement de perspective est radical. Ce qu'on doit en conclure, me semble-t-il, c'est que la présence ou l'absence de ces ressources décide s'il faut moins ou plus d'État. Ce qui veut donc dire que rien ne peut se définir a priori. C'est l'État historique des nations qui doit décider s'il faut plus ou moins d'État. Contrairement à ce que prescrit a priori l'idéologie économique. Le libéralisme a construit notre modernité. Il structure notre conception du politique, mais nous rend aussi sans doute incapables de saisir très précisément ce que le contemporain exige. De ce point de vue-là, l'opposition entre société et gouvernement est tout aussi significative que l'opposition entre société civile et État. Dans la pensée libérale classique, la distinction a été formulée clairement par Paine. Elle détache la société auto-instituée et auto-régulée du pouvoir, c'est-à-dire de la politique, qui n'est aux yeux de Paine qu'une réalité secondaire par rapport à la société qui est première. Donc, réalité secondaire, ça veut dire une réalité qui n'a pas de légitimité par elle-même. Le contexte historique dans lequel s'est formulée une telle distinction, c'est-à-dire la lutte contre la monarchie absolue, justifiait incontestablement une telle séparation. Il faut cependant sans doute la penser désormais autrement. L'interaction entre le social et le politique qu'exige l'âge contemporain impose, selon Pierre Rosanvallon, d'articuler autrement société et gouvernement, et de faire de cette articulation le cœur de notre nouvelle théorie démocratique. Dans la philosophie politique moderne, le pouvoir démocratique est associé à la généralité et le pouvoir despotique à la particularité, on le sait bien, c'est-à-dire au règne du bon vouloir, du caprice, de la décision arbitraire. Mais, sans tenir à une telle distinction, c'est penser qu'il n'y a de démocratie que dans le règne de la loi, donc que le gouvernement n'est qu'un pouvoir exécutif, qui exécute les lois. Or, la singularité à l'âge contemporain exige un art de gouverner, je l'ai dit, qui soit proximité, attention à la diversité. C'est de cette manière que la société peut, dans sa complexité, devenir un objet politique véritable. La généralité, souligne Pierre Rosanvallon, change de sens. Ce qui est demandé, c'est, je le cite, une généralité d'attention à la particularité. Fin de citation, et non plus la généralité de la règle. De la loi. La conceptualité politique renouvelée dont le contemporain a besoin pour former son langage politique fait toute sa part aux évolutions sociales et aux nouvelles passions qui s'y forment. Cette nouvelle conceptualité doit prendre en compte les difficultés auxquelles elle se heurte, notamment parce que l'avènement politique de la singularité, sur lequel j'ai beaucoup insisté, exige une transformation profonde de notre conception de la communauté. Et j'en viens donc à la dernière distinction, l'opposition entre société et communauté. Et cette difficulté, c'est sur elle que je voudrais conclure, car elle me semble massive. Reprenons la question, si j'ose dire, d'un peu plus haut. La singularité, par définition, ne renvoie qu'à elle-même. C'est sa définition. Sa reconnaissance publique, sur laquelle j'ai insisté, qui est désormais exigée, laisse-t-elle d'autres choix qu'une communauté minimale, voire seulement formelle. Que pouvons-nous avoir en commun si nous demandons tous à être reconnus pour ce que nous avons en propre? Le groupe auquel nous appartenons, plus encore l'histoire qui nous a constitués. Aucune théorie politique ne peut éviter de se confronter à une telle tension, qui ne peut appeler une solution seulement nominale. Pierre-Rosan Vallon en a bien conscience. Dans La société des égaux, il souligne qu'il faut revoir notre conception du commun, concept qu'il faut justement complexifier. Il en existe donc trois formes du commun. Je les cite, le commun participation, hein, c'est le fait de vivre ensemble des événements communs. Deuxièmement, le commun intercompréhension, c'est-à-dire la connaissance réciproque. Et troisièmement, le commun circulation, c'est-à-dire le partage de l'espace. Quand on réfléchit à l'articulation entre ces trois formes de commun, on voit bien que la première forme, c'est-à-dire le commun participation, et la troisième forme, c'est-à-dire le commun circulation, nourrissent la seconde forme, la deuxième forme, pardon, c'est-à-dire le commun intercompréhension, la connaissance réciproque. Mais cette connaissance réciproque peut-elle suffire à établir cette communauté dont la démocratie a besoin? Il me semble qu'ici, nous sommes confrontés à un double problème qui tient aux deux sens qu'a le mot « reconnaissance ». D'abord le sens descriptif, c'est-à-dire « connaître », et ensuite le sens axiologique, c'est-à-dire attribuer une valeur. Descriptif, axiologique. Voici le problème. Soit l'interconnaissance est connaissance de ce que nous avons en commun. Soit elle est connaissance de ce que nous avons comme différence. Mais, si on l'a bien compris, l'interconnaissance de la singularité, en tant que telle, eh bien demande que soient perçues les différences de groupes et d'individus. Or, du coup, ça ne nous conduit pas au commun. Ça, c'est, si j'ose dire, l'aspect descriptif du problème, qui est redoublé par l'aspect axiologique. Et cet aspect, ce problème axiologique, Louis Dumont l'a très bien expliqué dans ses essais sur l'individualisme, et on sait que Vincent Descombes commente beaucoup ces questions. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il n'y a que deux façons de reconnaître une valeur à un individu dans une société. Égalitaire ou hiérarchique. Soit on reconnaît à un individu qu'il a droit au même statut que d'autres individus. Mais dans ce cas, on doit mettre de côté ce qu'il a de différent. Dans ce cas-là, on met fin à une discrimination en instaurant justement une règle d'indifférenciation. Soit on demande que soit attachée une valeur à la différence elle-même, mais dans ce cas, souligne Louis Dumont, la valeur qu'on attribue est nécessairement hiérarchique, puisque pour la satisfaire, il faut accorder un statut spécifique à une catégorie, à un type d'individu, etc., etc. En résumé, soit on cherche à connaître la singularité pour elle-même, soit on cherche à dissoudre sa différence en cherchant ce qu'il y a de commun en elle. Ça, c'est la formulation du premier problème qui est descriptif. Et deuxième problème axiologique, soit on attribue à tous un même statut, soit on reconnaît la différence. Mais c'est alors la société des égaux, dans ce cas-là, qui est menacée. La contradiction intellectuelle me semble extrêmement profonde. Toutes les théories politiques normatives s'y trouvent aujourd'hui confrontées dans un monde contemporain qu'il est nécessaire de compliquer et de complexifier, si j'ose dire. Si toutes les théories politiques normatives s'y trouvent aujourd'hui confrontées, c'est une preuve sans doute que le travail que la démocratie doit faire sur elle-même est loin d'être achevé. Je vous remercie.